neighbor. Your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? During times like this.
C'est Blabla Mix?
C'est Blabla Mix.
Blabla Mix.
Bonjour.
Shuvo Modano.
Bonne année à vous.
Shuvo Novo Show.
Bonne musique.
Shuvo Gon.
Bonne cuisine.
Balo Kabar.
Bon amour.
Balo Vacha.
Et soyons patients. Dans Blabla Mix aujourd'hui, un concert de scie avec Jean de Welcome JRS. Dipou interviewe Pascal. Pascal a des secrets pédagogiques. Et puis Diakité du royaume de Bouna, qui a quitté Chaponneau depuis une heure, eh bien, il arrivera dans les studios pour nous parler de la Côte d'Ivoire. Schumann et Thomanette. Et tout de suite, une petite leçon de bonne année en farci.
Oui. Oh, oh, oh. Blah blah words.
Attends. Yo.
Moi.
Solinautabrik. Qu'est-ce que ça veut dire en farsi?
Solinautabrik.
Bonne année.
Solinautabrik.
Merci beaucoup. Champagne pour tout le monde. Et en bengali, comment on dit bonne année,
Dipou?
Alors plus doucement.
Bonne, c'est chuvo et novo bosho, c'est année.
Chuvo.
Novo bosho.
Novo bosho.
Novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Ah, y a un R. Borsho.
Borsho. Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Oui.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho.
Chuvo novo bosho. Chuvo novo bosho.
Atay et Goul, vous restez avec nous.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Et quel est votre métier?
Oh là là, j'ai plus de métier parce que j'ai arrêté mon activité professionnelle. Je suis passée du côté des pensionata. Pensionata.
Pensionata, ça veut dire?
Ça veut dire retraité en italien.
Ah, d'accord. Et quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous voulez faire?
Je travaillais dans la formation, j'ai été enseignante, j'ai fait de la direction pédagogique, j'étais plutôt dans le domaine de la langue et des mots.
Vous avez travaillé sur la langue et comme ça, la littérature.
Oui, j'aime beaucoup les mots. Je pense que ce sont des passeports pour la liberté.
D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec la Singa?
Ah, avec Singa, je rencontre plein de gens extraordinaires. Je les aide à apprendre très vite, le mieux possible, la langue, parce que je pense que c'est pour eux, justement, le moyen de devenir autonome et donc d'acquérir vraiment cette liberté dont je parlais à l'instant. Et je participe à ce qu'on appelle les blablas, qui ont lieu régulièrement, de façon hebdomadaire, où il s'agit de rencontrer, de se rencontrer, de partager, d'échanger. Moi, j'ai une approche un petit peu plus didactique, parce que j'ai envie de leur donner quelques clés pour structurer mieux la parole, donc la pensée.
D'accord. Comment vous avez rencontré la Singa? Comment vous trouvez?
Comment je les ai rencontrés? J'ai cherché. Quand je me suis retrouvée à la retraite, je me suis dit que j'allais pas rester comme ça sans rien faire. D'autant que la conjoncture nécessite d'avoir une activité humaniste et citoyenne. Donc j'ai cherché des associations. J'ai regardé. Et puis je suis allée à Singa.
D'accord. Et je crois que vous avez rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de votre pays.
Oui, d'ailleurs avec moi, là, il y a deux Afghans, Gul et Ataï, qui sont là depuis le mois d'août. Parce qu'au début, Singa, on faisait des rencontres blabla au parc de la Tête d'Or. Il faisait beau à ce moment-là. Alors que maintenant, il ne fait pas très beau, il fait plutôt froid.
Oui.
Oui.
Et où exactement vous faites la Singa Blabla?
Alors, en ce qui me concerne, je vais plutôt à la salle de la Ficelle, à la Croix-Rousse, mais il y a deux autres lieux. D'ailleurs, je ne les ai pas en tête, mais il y a trois blablas par semaine. Alors, je crois qu'il y a la Guillotière, à la maison de l'éducation. D'accord. Et puis l'autre, je ne sais plus. Donc, la maison de l'éducation, c'est rue... Ah, on est en train de me donner là des informations qui me manquent. Rue des Tables Claudiennes. Alors, c'est pareil, c'est pas très loin de la Croix-Rousse. Hein. C'est sur les pentes, les Tables Claudiennes. Et il y en a un autre à la Guillotière, je pense. Mais ça, on pourra communiquer facilement les coordonnées.
C'est toujours à cette place, à la Guillotière, toujours là-bas?
Alors, pour ce qui me concerne, rue Bonnefoy, merci. Pour ce qui me concerne, c'est vraiment toujours, à la salle de la Ficelle. Mais c'est une petite salle, alors on ne peut pas être très nombreux. Je sais que rue Bonnefoy, c'est un grand espace. Il y a une capacité d'accueil assez importante.
D'accord. Et maintenant, pour faire une cour avec les gens en direct, s'il vous plaît.
Avec mes deux amis. Oui. Alors, Ataï, tu es de quelle nationalité?
Je suis afghan.
Et Gul?
Oui, je suis afghan.
Oui. Et aujourd'hui, vous avez il fait froid aujourd'hui?
Non, oui. Froid.
Si, oui. Il fait?
Oui, il fait aujourd'hui froid.
Il fait très froid?
Oui, très.
Est-ce qu'il pleut?
Non.
Non?
Non.
Non? Il?
Non.
Il?
Non.
Il ne pleut?
Il ne pleut froid.
Il ne pleut pas.
Il ne pleut froid. Il ne pleut froid.
Il ne pleut pas. C'est difficile. Hein, ce qui est difficile, ce sont les sonorités. Il y a des distinctions, notamment sur les voyelles. Peut-être qu'ils ne les entendent pas, d'ailleurs, parce que nous, si on parlait une langue asiatique, on n'entendrait pas forcément certains sons. Je pense qu'ils ont du mal entre le E, le U, le O, et parfois c'est difficile, mais ils progressent, je crois qu'ils comprennent, n'est-ce pas, Ataï? Ataï, on l'appelle Tarbouz, c'est une histoire qu'on a racontée, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, je je leur apprenais le nom des fruits et des légumes. Et puis, comme je m'appelle Pascal, à taille, ils comprenaient pastèque, enfin pastèque, et ils croyaient que je m'appelais bicycle, parce que Pascal, ça fait bicycle. Et donc, on a traduit pastèque en tarbouze, et maintenant, entre nous, c'est un jeu. On s'appelle tarbouze, et il m'appelle bicycle.
Pascal, ça veut dire en afghan, c'est bicycle?
Non, ça veut pas. Non, mais c'est la sonorité de mon prénom, Pascal. D'accord. Qu'il a entendu de cette façon, quoi. Voilà.
D'accord.
Alors, le cours. Bon, alors, on va peut-être travailler un peu le verbe être. Le verbe être. Je. Il faut quelques supports parce que je suis.
Je suis afghan.
Afghan. Tu es. Tu es là. Regarde.
Oui. Je suis content.
Il est content, Goul. Tu es content.
Oui.
Tu es. Franc.
Tu es franc.
Française.
Française.
Oui, je suis française. Il est
bengalais.
Ah, bien. Nous sommes
à radio.
Canu. Nous sommes à Radio Canu. Oui, dans le Blabla Mix. Vous êtes sympathique. Et ils sont tous
travaillés.
Ils sont tous gentils. Voilà. Ça, c'est le verbe être. Alors, c'est pas encore acquis.
Avec oui. Pascal.
Oui, très bien. C'est bien. Donc, c'est un peu. C'est petit à petit.
Petit à petit.
Tu parles français à taille. Comme si.
Petit à petit.
Comme si. Comme si, comme ça.
Comme si, comme ça.
Oui, comme si, comme ça. Voilà. Bon, c'est difficile de faire un cours comme ça. On se voit une fois par semaine. On fait des exercices beaucoup autour aussi de l'écrit. Parce que je pense que l'oral et l'écrit sont indissociables et qu'il faut aussi qu'ils reconnaissent les graphies.
Oui, je crois que c'est difficile parce que d'autres langues, il n'y a pas existe là où... La prononciation, comme ça, il n'est pas existé.
Oui, et puis les codes sont bouleversés, puisque la lecture, déjà, se fait de gauche à droite, alors que dans leur culture, non. Donc, il faut tout repenser. Donc, ça veut dire que les hémisphères cérébraux aussi ont des mécanismes qu'il faut revoir, etc. Donc, mais ils y arrivent, et puis ils sont tellement sympathiques, et ils ont tellement envie d'apprendre que ça se passe bien.
D'accord. Et là, pour moi, c'est comment je fais l'écriture. C'est difficile pour moi, l'écriture.
Oui.
C'est pour l'écriture, c'est qu'est-ce que vous pensez, aider?
Moi, il y a parmi les Afghans un garçon qui, je crois, ne parlait ni n'écrivait. Et il est en train d'apprendre à écrire le français alors qu'il ne savait pas écrire sa langue. Alors je fais comme avec les enfants, hein, je passe derrière lui pour lui montrer le mouvement à effectuer. Parce que souvent, justement, encore une fois, ils écrivent de droite à gauche, et alors que nous, l'écriture cursive est toujours de gauche à droite. Alors ça fait que c'est beaucoup plus facile d'être qu'on comprend le mouvement. Il y a une approche aussi kinesthésique, c'est-à-dire avec le corps de la langue. Voilà.
D'accord. C'est l'écriture et la parler, c'est pas la même chose. La langue française.
Non.
Oui, c'est ça. Mais il fait difficile.
Oui. Mais la langue française est particulièrement difficile. Oui. Et alors, quand on demande pourquoi c'est comme ça, la réponse est parce que c'est comme ça.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Ah oui, c'est toujours la même réponse, c'est comme ça.
C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît pour une future? Vous voulez ouvrir la une école?
Oui, alors on est un collectif de de bénévoles qui avons pris l'initiative de construire et de créer une école gratuite pour tous les exilés du monde.
D'accord.
Et donc nous travaillons avec une personne qui en est la présidente et qui en est à l'initiative, qui s'appelle Bernadette Place, et qui a pour objectif de mettre en place, à l'instar d'une autre école qui existe à Paris qui s'appelle l'école Taute, de mettre en place des programmes intensifs d'apprentissage du français pour tous les exilés, parce que moi je crois aussi que le temps qui passe entre le moment où ils arrivent et le moment où ils obtiennent un véritable statut, faut le mettre à profit. Je vois pas qui ça peut gêner qu'on leur donne les clés pour apprendre le français. Il n'y a aucune raison pour que on empêche ces gens, ces personnes d'apprendre le français. Donc cette école devrait voir le jour. On en a déposé les statuts récemment. Elle s'appelle ERIS, E-R-I-S.
C'est où ?
ERIS. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de locaux véritablement. On a déposé les statuts. Juste pour dire que ERIS, c'est la forme future du verbe sum en latin, qui veut dire je suis. Donc ce sera tu seras. Ça veut dire tu seras. C'est donc la perspective vers un devenir plus riant. C'est ce qu'on veut donner, offrir. Ce sera une école gratuite. Alors, il y aura effectivement des effectifs réduits parce qu'on ne peut pas non plus accueillir tout le monde tout de suite. Il y aura des prérequis. Et l'enseignement sera fait par des professeurs certifiés français langues étrangères. Donc, la première promo devrait voir le jour en avril.
D'accord.
Et est-ce que Dipou pourra aller dans cette école ?
Il sera bienvenu, en tout cas.
Oui. Je vais. Mmh. Oui, on va voir.
Parce que vous parliez de prérequis, hein, pardon.
Oui,
prérequis.
Le prérequis, c'est d'accueillir dans un premier temps, pour la première promo, des personnes qui ont déjà suivi une scolarité dans leur pays jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est le premier prérequis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà une approche un petit peu, enfin un apprentissage de leur langue.
D'accord. Ah, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était à collège dans d'autres pays,
voilà.
Comme ça.
Voilà. Ah. Jusqu'à l'âge de 16 ans minimum.
16 ans.
Oui. Pour la première promo, après on ouvrira, on élargira, mais c'est un pilote et donc on y va en prenant des risques et on veut minimiser ces risques de façon à ce que ça soit une grande réussite.
D'accord.
Voilà.
Et Atai, est-ce que Pascal est gentil ? Est-ce qu'elle est sympathique comme professeur ?
Atai, il est là.
Goul, alors
Pascal, moi, professeur Singa, très bon.
Très bon.
Merci Dipou, merci Pascal.
Mais je vous en prie.
Merci Atai et Goul. On va donc redonner, avec l'aide de Florian d'ailleurs, qui vient de nous rejoindre avec ses paupières encore fermées, les Blabla Singa. C'est donc le mercredi de 16h à 18h au Centre Social Rue Bonnefoy dans le 7e. Et le jeudi à 18h, 20h, 21, rue des Tables Claudiennes, à la Maison de l'Éducation. Merci beaucoup.
Et le vendredi, de 16h à 18h, à la salle de la Ficelle. Sur inscription.
Sur inscription. Florian, bonjour, comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Je crois que tu es arrivé avec un disque sous le bras, ça nous fait bien plaisir.
Ouais, je vais vous présenter ça. Donc moi, je vais vous reparler du fameux Hassan Abdelrahman. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Hassan qui était venu avant les vacances. Il nous avait fait une super leçon de musique là avec le Houd. Et on avait parlé de Moussika et de Nourani. Alors moi, j'avais l'air dans la tête là. C'était Nourani, Moussika, Nourani, Moussika. Et alors du coup, il nous a laissé un CD à la fin de son émission. Donc c'est le CD du trio Talawin qui s'appelle Azrak, qui voulait dire le bleu. Et alors donc il y a Hassan qui joue du oud, mais il y a aussi Nicolas Najot qui est plutôt aux instruments avant, et il y a Romero Monteiro, lui qui joue un petit peu plus des percussions qui viennent d'Inde. Donc ça fait un mélange super intéressant, voilà, entre le oud, les musiques d'Inde et aussi les instruments avant plutôt aux alentours du, enfin, dans la région de la Turquie et du Moyen-Orient. Et c'est juste magnifique. Donc on va écouter une petite chanson de Trio Talawin. C'était Hassan Abdelrahman avec le trio Talawin et la chanson elle s'appelait Mizrahiyati. Alors juste pour préciser, donc Hassan il vient de Syrie et il nous a aussi parlé de son association Alwan à Lyon là, qui travaille beaucoup avec les enfants syriens. Donc voilà, vous pouvez réécouter l'émission d'avant les vacances si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus.
T'es cru là.
Allez, passe-moi le marteau.
Ah, tournevis, la tournevis.
Et la clé à molette.
Et les clous, ils sont où les clous?
Bah non, je les ai oubliés.
C'est pas facile.
Bah alors comment on construit sans clous?
Ah non, mais ça y est, j'ai trouvé.
T'as les clés là?
Passe-moi la ponce.
Passe-moi le tournevis.
Léna, t'as le tournevis?
Oui, j'arrive.
Aïe.
Et puis la clé de douze aussi.
Ah, et la pince.
Allez,
la pince.
Allez, à Allez.
Non, mais ça va jamais rentrer là.
Bien frotter. Allez, vas-y.
Ah, si, si, ça prend forme. Là.
Donc là, tu serres correctement.
C'est, ouais, non, c'est les, c'est, ah, c'est les outils de l'intégration. Ah, oh, c'est ça. Oh, blabla mix.
Blabla blabla poche.
Dipou. Bonjour monsieur Dipou.
Bonjour madame, vous allez bien?
Alors aujourd'hui, vous avez un musicien extraordinaire. Moi j'en ai jamais vu de cet instrument. Et pour la première fois, enfin, nous allons assister en direct à un concert de quoi?
Concert de si.
De si?
Oui.
D'accord, avec les dents?
Avec l'ossi et la monsieur qui va faire. Non, il n'est pas dedans. Mais Jean Lacour, il va faire la scie.
Alors, c'est qui Jean Lacour?
Tu ne connais pas?
Non. Enfin, je sais qu'il est assez célèbre, mais discret.
Ok, laisse Jean Lacour pour dire qui il est.
Ah bon, ben voilà, je suis Jean Lacour.
Eh ben voilà, merci beaucoup Jean, c'était formidable.
Alors, bonjour Jean.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour Dipou, oui.
Et c'est comme... Comment était votre réveillon?
Comment était mon réveillon?
Oui.
Oh ben j'ai dansé. Ça fait longtemps que je n'avais pas dansé.
D'accord.
J'ai dansé avec tous les jeunes accueillis de JRS Welcome.
D'accord.
Voilà. Et puis je me suis couché à 2h30 du matin.
Ouh là là.
Ce qui ne m'arrive pas souvent.
Oui. Oh, c'est, vous étiez fait. Vois beaucoup l'alcool?
Non,
non.
Un petit peu. On a bu quand même un peu de champagne. Tu sais, quand on fait la fête, il faut faire des bulles ici.
D'accord.
Non, mais là, il parlait de lui, Dipou.
Alors, quand vous aviez 22 ans, comment vous passiez le 31 décembre?
Comment je passais le 31 décembre,
oui.
À 22 ans? Ça, je ne me rappelle pas du tout.
Non, vous oubliez?
À 22
non,
ans,
c'est j'étais pas possible.
À l'école et je ne me rappelle pas, non.
Pas un peu.
Ou peut-être un souvenir de quand vous aviez 22 ans, Jean?
Oui, à l'école, moi je faisais surtout du sport, je faisais, à part les études, je faisais de la randonnée, je faisais du vélo, je faisais du bateau.
Mais ça, on peut faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une particularité? On ne connaît pas votre âge, mais il y a quelques années auparavant.
Comment la France, comment était la, quand vous étiez 22 ans?
Oui.
La pays.
Comment était le pays?
Oui.
Ah oui, moi j'étais à Saint-Étienne, c'est-à-dire loin de chez moi, où j'habitais à Paris. Alors c'était très long pour rentrer à la maison. Donc moi j'avais un scooter simplement que je bricolais aussi parce qu'il était quelquefois en panne. Et on n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de TGV. Le train mettait 7h pour aller ou 8h pour aller de Saint-Étienne à Paris. Donc je passais les week-ends à la maison, enfin chez moi.
D'accord, il n'était pas de beaucoup de choses comme maintenant.
Et non, les communications étaient beaucoup moins faciles. Il n'y avait pas de téléphone portable.
Comment vous étiez parlé avec quelqu'un qui habite loin?
Qui habite loin?
Oui, oui.
Pour parler avec mes parents, on téléphonait de temps en temps, mais...
Il n'est pas de portable, mais il était téléphone.
Ah, le téléphone existait, oui, le téléphone à fil, fixe, comme on dit maintenant.
Vous êtes voir la Deuxième Guerre mondiale?
Alors, la Deuxième Guerre mondiale, moi je suis né pendant. Voilà, mais mon père a fait la guerre.
D'accord. Vous êtes quel âge?
Alors, moi j'ai 60...
Non, avant, dans la Deuxième Guerre mondiale.
Moi je suis né en 1943. Donc voilà, et la guerre mondiale c'est
39-45.
Je suis né juste au milieu.
D'accord. Voilà. Et maintenant... vous allez jouer la psy avec nous?
Oui, si tu veux.
Oui, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, on est encore dans le temps de Noël. Alors, voilà, on va faire un chant de Noël.
D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Jo. C'était très beau. Alors, comment vous avez appris la scie?
Ah, ça s'apprend tout seul.
Tout
seul.
C'est
mon père qui jouait ça.
D'accord.
Mon père avait cet instrument. Je l'ai vu faire, je l'ai écouté. Et puis, ben, on essaye.
Voilà. Cet instrument, c'est très ancien, c'est ça?
Non, je pense
maintenant,
que
ce n'est
pas très ancien.
Maintenant, il existe aussi?
Je ne crois pas, parce qu'avec l'informatique, avec les appareils numériques, on arrive à faire à peu près la même chose. Donc, je crois qu'on n'en trouve plus que dans les cirques.
Cet instrument-là, si, il est français, comme il vient d'autres pays ou...
Je ne sais pas.
Non?
Je n'en sais rien.
Tu en avais jamais vu, Dipou?
Non, non, non. C'est la première fois, j'ai déjà vu.
Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des scies électriques.
Ah, la scie électrique, non. Je peux jouer avec une scie égoïne, c'est-à-dire une scie avec des dents. Évidemment, je ne vais l'archer pas du côté des dents. Voilà.
Donc, est-ce que vous pouvez décrire quand même c'est une vraie scie ou pas une vraie scie?
C'est une lame. C'est une lame métallique, souple, assez longue. Ça fait à peu près 90 cm environ. C'est large à la base et puis c'est étroit vers le haut avec une poignée pour pouvoir la tenir et courber la scie. Et je frotte avec un archet pour obtenir le son. Voilà, tout simplement. Et suivant qu'on courbe plus ou moins la scie, eh bien, on peut faire des notes plus ou moins aiguës. On joue d'oreille. Ah. Les notes ne sont pas fabriquées sur l'instrument.
Vous pouvez nous faire une démonstration, un son grave et un son aigu. Donc là, la scie est droite. Et là, elle est très courbée.
Voilà.
Et par exemple, si vous jouez plus près du manche, de là où vous la tenez, près de vos genoux, en fait.
Là, c'est très grave. En fait, il faut faire une sorte de S avec la scie. Donc, il y a un point d'inflexion et le son sort à peu près à ce niveau-là. Donc, il faut frotter à peu près à ce niveau-là.
Alors, je crois que vous jouez autre instrument aussi, la flûte.
Dans l'autre instrument, je joue de la flûte traversière, oui.
Oui, bah, vous jouez beaucoup de choses.
Oh, bah, deux, c'est pas beaucoup.
Est-ce que vous êtes...
Il y a... il y a guitare. Je te vois à la maison de vous, il y a guitare aussi.
À la maison, il y a beaucoup d'instruments de musique, oui.
Oui.
Il y a une guitare, il y a une mandoline, il y a un piano, il y a... des flûtes à bec, il y a un tambourin, il y a un saxhorn, il y a je ne sais plus quoi encore.
Vous jouez toutes les choses?
Non, non, pas du tout. Non,
pas de tout?
Non. Non. Ma femme, Odile, elle joue un peu de piano. Voilà.
Venez, Odile.
Mais on n'a pas amené le piano.
Venez, Odile, installez-vous, car c'est un honneur pour nous. Est-ce que vous pouvez comment nous présenter votre mari avec qui, que vous connaissez depuis une paire d'années, comme on dirait? Comment le présenter? Parce qu'on n'a pas encore. On sait que c'est un scieur musical, ça c'est bien.
Oui.
Mais c'est un homme. Quelles sont ses qualités et ses défauts?
Un couple qui est musical.
Comment?
Un couple, comme on dit.
Un couple, tu veux
un
dire.
Couple, oui, un couple musical.
Un couple musicien, oui, pas vraiment. En tout cas, pas professionnel du tout, très très amateur. Voilà, mais c'est vrai que ça fait 50 ans qu'on se connaît. Mm-hmm.
Donc, comment vous êtes raconte?
Ah, nous avons des cousins communs, c'est aussi un peu une affaire de famille, voilà. Les deux familles ont des cousins... qui se sont rencontrés et voilà, qui nous ont permis de nous rencontrer.
Mm-hmm. Sur le golfe du Morbihan.
Voilà, au bord de la mer, près, en Bretagne.
En Bretagne?
Oui.
Ah, d'accord.
Tu connais la Bretagne?
Oui, j'étais là-bas, oui. Voilà. Très jolie.
Oui, c'est joli. Oui. Alors c'est romantique, du coup.
Du coup, vous êtes aussi un couple engagé, puisque vous êtes tous les deux à Welcome JRS, c'est comme ça que vous connaissez Dipou. Mm-hmm. Quels sont alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Jean, Odile?
Ah, vous présentez Jean. Alors Jean est un ingénieur de formation. Voilà, quand il disait qu'il était à l'école, c'était une école d'ingénieurs. Il a travaillé sur des chantiers d'abord et ensuite il s'est occupé de formation professionnelle dans les entreprises. Voilà, Et du coup, on a beaucoup déménagé. Et ça nous a ouvert un peu au monde extérieur à la France. Voilà, on a habité 2 ans en Allemagne, à 2 endroits différents. Et puis du coup, à la retraite, on a eu envie aussi de bouger. On a passé 2 ans en Algérie. Voilà. Et comme on a été très bien accueillis ailleurs, et bien on s'est dit qu'on avait envie aussi de continuer à s'ouvrir au monde en accueillant chez nous et en facilitant cet accueil.
Merci Odile. Pour parler un petit peu. Et genre, maintenant, est-ce que vous allez faire autre morceau aussi?
Un autre morceau?
Oui, s'il vous plaît.
Alors, écoute, je vais démarrer sur un thème et puis improviser un peu après.
Ça marche.
La cour, oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
C'est un artiste.
C'est un artiste, absolument. Oui. Odile, vous diriez que votre mari est un artiste?
Oui, il n'est pas très créatif, mais il aime beaucoup reproduire et faire s'appliquer beaucoup, pour travailler beaucoup pour essayer d'arriver à faire de belles choses.
Comment vous le prenez, Jean? Vous n'êtes pas très créatif.
C'est... Non, mais c'est vrai. Je manque totalement d'idées. Mais j'aime bien beaucoup travailler de mes mains. Et puis donc, voilà, je dessine un peu, je fais un peu de sculpture sur bois. Et voilà. Donc je reproduis plutôt, mais elle a tout à fait raison.
Et vous faites aussi des sculptures en démocratie, donc puisque votre présence est absolument fondamentale à Welcome. Est-ce qu'on peut juste terminer là-dessus, Dipou, peut-être nous dire que fait Jean à Welcome? À quoi il sert? Il sert le thé? Les petits gâteaux?
Oui, je connais Jean, ça fait 10 ans.
Oui. Oui.
Ça fait 10 ans, oui. Oui. J'étais à la maison de Jean aussi, pour un mois. Et nous avons fait le vélo. Oui, dans le parc de la...
Parc, ah oui, on a fait du vélo au parc de Miribel.
Oui, oui.
Ouais, on a fait le tour du lac ensemble.
Oui, c'était très bien, oui.
Tout à fait, en VTT.
Oui.
Et donc ce réseau Welcome permet de vous héberger, puisque tu as non seulement dormi chez Jean et Odile, mais également, tu en es à ton combien de déménagements d'ailleurs, Dipou, depuis un an que tu es ici en France?
Depuis mois de mars 2016, oui.
16 déménagements. Bon,
oui. Non, pas 16 déménagements. Ah. Mois de mars.
Mars
2016. Ça fait des... Oui, mars, avril, mai, juillet.
Ça fait une dizaine de familles.
Oui, oui.
D'accord.
C'est 8 familles et 2 communautés, oui, comme ça. Oui.
Et pourquoi il faut qu'ils changent tout le temps, tous les mois?
Pourquoi il faut qu'ils changent tous les mois? Il faut qu'ils restent combatifs. Voilà, parce qu'en fait, on leur donne un coup de main à un moment donné. On ne leur garantit pas d'être accueillis toute la vie. En tout cas, pas forcément jusqu'à ce qu'ils aient une solution définitive. Oui. Mais on les prend à un moment où ils sont peut-être fatigués parce qu'ils sont dans la rue ou qu'ils ont un logement extrêmement précaire. Et pouvoir être accueillis dans une famille, voilà, ça leur permet de reprendre souffle, de se préparer aux entretiens qu'ils ont à faire, d'être mieux dans leur mieux dans leur pompe, je dirais, quand ils sont pour, dans ces entretiens. Voilà, ça leur
oui, c'est une bonne idée. Oui, nous racontent beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Oui.
Mm-hmm. Voilà. C'est, ça leur permet aussi de voir oui. Différentes façons de vivre en France.
En France, oui.
Tout le monde ne vit pas de la même façon.
Oui.
Et puis, il peut y avoir aussi, si quelqu'un reste trop longtemps dans une famille, un attachement peut-être excessif qui peut se manifester. Ou au contraire, si ça ne se passe pas bien, on sait qu'un mois, bon, ben, voilà. Et puis, ça sécurise les familles de savoir qu'il y a un début et une fin.
Il y a un cadre.
Donc, un mois, c'est bien. Il y a un cadre.
Bah, c'est déjà bien d'héberger une personne un mois. Et pour vous, ben, c'est pour garder la niaque et ne pas avoir le temps de trop déprimer déjà au fond du lit, en se disant, ben, voilà, j'attends d'aller mieux. Et enfin, on a bien compris. Je rappelle donc qu'on peut le dire que tous les mercredis, il y a une permanence.
Tout à fait. De 17h30 à 19h20. Rue Sala.
Dans le deuxième arrondissement, voilà, si vous avez envie de...
Cours, c'est ouvert à tout le monde, tous les gens, donc tous les accueillis du réseau. C'est à que c'est les tuteurs et les familles sont les bienvenus aussi. Et aussi les personnes qui veulent se renseigner, qui veulent savoir un peu qui on est. C'est une bonne entrée en matière, puisqu'ils sont au moins une dizaine chaque mercredi à venir ensemble manger des gâteaux et prendre le thé.
Absolument.
Merci beaucoup. Genre pour d'être venu, oui, merci.
Est-ce que vous vous intéressez à la mode?
Pas vraiment.
Fa 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 fa
fa fa fa fa fa fa fa fa
fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
C'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler de la Côte d'Ivoire. Alors autant dire que moi, je m'intéresse à la mode, mais à la mode surtout française, européenne. Donc sur la Côte d'Ivoire, je partais quand même un peu de zéro. Mais d'après ce que j'ai compris, j'ai quand même eu l'impression que la mode avait plutôt une grande importance en Côte d'Ivoire, en fait. Mm-hmm. Et surtout dans les grandes villes, notamment à Abidjan, la capitale. Pour dire à quoi ça ressemble concrètement, alors c'est difficile de savoir comment les gens s'habillent vraiment dans la rue, mais d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est quand même un peu un mélange entre le modèle européen et un modèle plutôt africain. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir des personnes porter des jeans, des vestes en cuir, comme on pourrait le voir en France en fait, mais la plupart des femmes, parce que j'ai l'impression que c'est quand même surtout les femmes qui s'y intéressent, portent ça avec des vêtements aux motifs éclatants, donc on peut voir du rose fluo, du rouge, du jaune, du turquoise, etc. Avec des pompons, des grosses fleurs et tout. Mais ça, je pense... Des pompons, oui, des qui pendent avec en fil, en fait.
Ah et oui, en Côte d'Ivoire, on aime bien les pompons.
Ouais.
Non, mais c'est bien, c'est bien à savoir.
Ouais. Mais alors ça, je pense que ça peut être le cas aussi dans d'autres pays. Mais là, j'ai l'impression que j'ai aussi, c'est que y a un espèce de dynamisme fou en fait dans la mode. Il y a beaucoup de stylistes, beaucoup de créateurs. Il y a beaucoup d'événements aussi. Il y a la Fashion Week, il y a l'Afrique Fashion Show qui a lieu tous les ans à Abidjan. Et il y a aussi beaucoup de blog mode en fait. Donc forcément, vu que moi j'ai un blog mode, ben ça m'a intéressée. Et il y en a notamment une qui s'appelle Fanta. Donc son blog, c'est Fantastique. C'est fantastyck.com. Et en fait, elle correspond hyper bien à la description que j'ai faite juste avant. C'est-à-dire, elle peut mettre des robes à motifs géométriques avec, et avec ça, avec plein de couleurs, comme je le disais. Et avec pas mal de codes, en fait, qu'on associe à l'Afrique. Donc, du wax, donc, c'est-à-dire du tissu avec beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs, etc. Des pagnes et tout. Et en fait, elle, cette blogueuse, elle a lancé un webzine sur la mode parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de visibilité des personnes qui travaillent dans la mode sur Internet, en Côte d'Ivoire. Et ce site s'appelle Fall in Mode. Donc, ça s'écrit fallinmode.com. Et sur ce site, on peut trouver plein de conseils sur comment s'habiller, sur les événements aussi de la mode en Côte d'Ivoire. Et en fait, il y a aussi un autre site, j'ai vu, qui a été monté, qui s'appelle Modèle 225. Apparemment, 225, c'est l'indicatif téléphonique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom. Et en fait, sur site aussi, on trouve plein d'actu mode, des actus sur les mannequins, sur les événements, sur les stylistes et tout.
Et qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui en Côte d'Ivoire ?
Et ben, c'est ce que je disais, j'ai les l'impression pompons, que le mix, ouais. Non, mais le mix entre mode européenne et mode africaine, en fait, est hyper, hyper en vogue en ce moment. Et sachant que la plupart, quand même, des blogueuses que j'ai vues disaient qu'il fallait quand même s'extirper un peu du modèle européen et porter de plus possible de wax, de couleurs et tout. Et c'est aussi d'ailleurs ce que dit la créatrice de l'Afrique Fashion Show. J'ai trouvé que cette phrase était sympa. Elle dit : les vêtements doivent mettre les formes des femmes en valeur pour sortir du modèle européen et faire valoir dans le monde le modèle africain. Et c'est ce qu'elle a dit dans la dernière interview de l'Afrique Fashion Show 2016.
Mettre les femmes en valeur, mais et les hommes, ils n'aiment pas la mode.
Justement,
je n'ai
pas trouvé beaucoup d'informations sur la mode concernant les hommes, même si sur le site de Fanta, il y a une rubrique « La mode pour lui ». Mais voilà, je ne sais pas si dans les faits, les hommes s'y intéressent vraiment. En tout cas, sur Internet, il n'y a pas grand-chose.
En tout cas, ils sont hyper fashion. Hein. Super. Terminé ? C'est terminé ?
Merci, Léna.
Bah, merci.
Blabla Minute.
Et nous accueillons
Anne.
Bonjour Dipou.
Bonjour.
Ça va?
Tout va bien?
Oui.
Oui, ça va. Pas mal.
Froid. Il fait combien au Bangladesh en ce moment?
Bangladesh, il y a froid. Dans l'hiver, il y a 8, 9, 10 comme ça. Pas moins degré. Il n'y a pas d'existe la neige.
Pas de neige.
Non.
C'est beau la neige.
Oui, oui j'aime.
Alors Anne, nous sommes ravis de t'accueillir, d'autant que notre ami Diakité s'est un peu perdu sur les routes et on le comprend, puisque je l'ai appelé à 10h05 pour venir à une émission à 11h30, alors qu'il habite à 40 km. C'est fort sympathique. Heureusement,
Justine est là. Justine, bonjour.
Bonjour.
Tu étais venue pour voir et puis...
Et je participe.
Voilà. Alors, puisqu'on parlait... Donc, Justine, tu fais partie de JRS Welcome, dont on a déjà parlé avec Jean. Mais puisqu'on parlait de la Côte d'Ivoire, alors je crois pas que tu connaisses la Côte d'Ivoire, en revanche, tu connais un peu l'Afrique.
J'ai eu la chance de voyager, effectivement, dans plusieurs pays. Et surtout, je suis restée pendant 2 ans et demi au Tchad, à N'Djamena, la capitale, en coopération.
Alors, ce que disait Léna sur les couleurs dans la mode africaine,
oui,
ça te rappelle des choses.
Je valide. J'aime beaucoup, effectivement, les wax. Pas que les wax, d'ailleurs, mais beaucoup de couleurs qu'on n'ose pas toujours remélanger. Mais effectivement, c'est très joyeux et très bien porté.
Alors, on se dit qu'il y a une logique de 2 années en Afrique et puis ici, de retour en France. Je ne sais pas quand tu es rentrée.
Je suis rentrée il y a 6 ans de ça. Et du coup, effectivement, je me suis arrêtée à Lyon. Et ben mon arrivée à JRS Welcome et dans la continuité, moi j'ai aimé particulièrement être accueillie, la diversité, l'interculturel. Et quelque part ça me manquait ici, même si en ville on a la chance de côtoyer des gens de plein de nationalités. J'avais envie de vraies amitiés, de vraies rencontres et parfois de rencontrer des gens de pays que... pour lesquels on a une approche difficile et de rencontrer une personne, voilà, tout simplement, je trouvais que ça changeait le regard par rapport aux médias ou la télé, les infos, ce qu'on pouvait recevoir.
Comment tu racontes la JRS ?
Comment est-ce que j'ai rencontré JRS ? Oui. C'est une amie qui m'a parlé de ça quand je lui ai dit mon désir de d'être au service ou d'être dans la rencontre de personnes différentes. Elle m'a parlé de ça.
Alors, tu es tutrice à JRS Welcome. Quel est le rôle d'une tutrice ?
C'est accompagner une personne, donc un demandeur d'asile, et c'est un petit peu la personne de référence. Tout à l'heure, donc Jean a parlé des familles d'accueil, je pense, et donc c'est vrai que tous les mois, les demandeurs d'asile changent de famille, et le tuteur permet de une certaine stabilité ou de faire un peu médiateur avec les familles. Et voilà, du coup, ça fait un peu fil rouge, fil conducteur. Et ça permet d'avoir aussi au niveau de l'association, chacun s'occupe d'une seule personne. Et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Ça permet à nos responsables d'être un peu plus tranquilles aussi. Voilà.
Tu as été tutrice pour l'instant de plusieurs demandeurs d'asile ?
Alors, un demandeur qui était du Bangladesh, et Hassan, et une autre personne actuellement qui s'appelle Bemba, qui est de la Guinée-Conakry.
Qu'est-ce que ça... Ouais, t'as une question, Nipou ?
Ah non, vas-y.
Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, finalement, de cette aventure-là avec JRS Welcome ?
En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me permet de vivre dans mon quotidien une rencontre un peu plus proche. Et moi, je suis infirmière, je travaille avec beaucoup de gens différents, mais quand c'est des patients, il y a parfois une plus de distance. Et là, c'est dans un monde associatif et je trouve qu'il y a une amitié, il y a quelque chose qui se crée tout doucement, mais qui est sympa.
Alors Jean tout à l'heure a parlé du réveillon, je crois, du 31. C'est un peu toi qui as eu cette idée-là de proposer ça.
Oui, effectivement. En fait, le réveillon s'est organisé un petit peu de dernière minute, mais ça a été assez joyeux. En fait, à l'automne, on a eu l'occasion aussi de, suite à un atelier d'écriture et d'expression. D'expression qu'on avait travaillé pendant un week-end avec une quinzaine de personnes, je pense. On avait expérimenté, voilà, de chercher des mots, de les mettre en forme, de les mettre en poésie, après de les mettre en théâtre quelque part, et on a pu se produire devant un petit public. Et suite à ça, en fait, il y a justement Bemba qui m'a dit qu'il avait particulièrement aimé un des moments qui était le temps de la danse. Et en fait, il m'a dit qu'il n'avait pas dansé depuis qu'il avait quitté son pays. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça particulièrement touchant qu'une personne venant d'Afrique n'ait pas pu danser depuis un an, enfin, ou 9 mois. Et je me suis dit que le réveillon était quand même ce temps joyeux. Et pour l'association, ça a été un temps de retrouvailles. On a partagé un buffet, on a dansé du folk et on a dansé un peu sur les musiques actuelles. Donc voilà, ça a été un petit réveillon tranquille, mais fraternel.
Dipou, toi, tu n'y étais pas parce que tu étais dans ton lit. Je crois que tu avais la grippe.
Oui, la grippe est fiable.
Mais tu aimes danser aussi.
Oui, j'aime beaucoup, oui.
Pourquoi ? Comment tu te sens quand tu danses ?
Quand je danse, je suis heureux. Oui. Oui, j'ai oublié toutes les choses, le stress, toutes les choses, oui.
Donc c'est important la danse.
Oui.
Tout le monde à JRS Welcome, on peut parler d'Omar aussi qui fait 2 mètres, donc c'est impressionnant quand il danse, mais c'est un très très bon danseur. Et puis beaucoup, évidemment, on imagine les Africains, enfin c'est ce que Justine disait, imaginez de ne pas avoir dansé depuis qu'ils ont quitté leur pays.
Et ça vous dirait de danser ? Ouais. On a un petit peu de musique et puis ensuite on conclut ensemble. Florian, c'est à toi.
Ouais, on va danser et on va introduire un petit peu de poésie dans ce monde avec Léo Ferré et Paul Verlaine. Et je crois que Dipou, tu vas nous lire quelque chose.
Oui.
Puisque tu connais ce poème.
Oui, j'ai déjà. Les sanglots longs, des violons de l'automne, blessé mon corps, don longo. Monotone. Les sanglots longs des violons dans l'automne blessent mon corps dans l'angoisse monotone.
De l'automne blesse mon cœur. Tout suffocant et blême quand de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Monotone. Vous êtes écouté Blabla Mix dans la radio Canou. Il est midi et 56.
Anne et Justine. Justine, on parlait de ce que ça avait changé dans ta vie, enfin ce que ça t'apportait, cette rencontre avec les réfugiés, les demandeurs d'asile. Dans la société, de manière plus générale, c'est pas une question forcément évidente. Et les échos qu'on entend dans les médias sont souvent, pas uniquement, mais souvent assez, on entend un sentiment de peur, il y aurait une vague qui arriverait, on se demande comment la grève peut prendre dans la société, enfin c'est pas évident. Quel est ton regard, toi, sur la place que peuvent avoir les personnes qui arrivent ici comme réfugiés dans la société après?
La première chose, c'est déjà on n'a pas le choix, je pense, de cette diversité. On parle de mondialisation, l'économie c'est une chose, mais la rencontre et cette mondialisation, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc autant la rendre belle et agréable. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des pays qui vivent des choses vraiment complexes et les pays voisins accueillent beaucoup. La France se sent débordée, mais proportionnellement par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est peu. Donc je pense qu'il faut remettre les problèmes à leur place. Et en plus, la France a une possibilité d'accueil importante et elle a une tradition d'accueil aussi importante qu'on peut remercier et qu'on peut essayer d'encourager encore. Après, sur la place des réfugiés ou des étrangers, on dit beaucoup que la diversité est une richesse, mais si on le vit pas vraiment, c'est que des belles paroles. Donc je me dis que ces personnes sont là pour nous bousculer un peu dans nos habitudes, nous déranger dans le entre-soi, le trop de ressemblance. Et du coup, voilà, pour moi, la question, elle est de le vivre vraiment et de ne pas être simplement dans des belles paroles.
Puis l'expérience qu'on fait à GRS Welcome, c'est plutôt que ce n'est pas très compliqué et que c'est source de beaucoup de joie, non ?
Tout à fait, c'est beaucoup de joie. Et la question de la peur est importante. On parle beaucoup de dresser des murs, en tout cas de séparer les gens. Et de faire des lieux de rencontre permet de croire vraiment. Et à juste titre, ce n'est pas qu'un idéal, c'est une vraie possibilité de se rencontrer et de vivre ensemble. C'est une réalité, on peut vivre ensemble.
Merci Justine d'avoir remplacé au pied levé Diakité. On l'attend pied ferme pour une future émission.
Oui, merci beaucoup Justine pour d'être venu et merci Anne et merci GRS, merci Odile et Jean et à tout le monde.
À la fenêtre.